De sa vie. Sur France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux.
La traduction vers le français par Céline Leroy aux éditions du Sous-Sol a fait récemment connaître plus largement au public le projet autobiographique et littéraire de l'autrice britannique Deborah Levy. Femme mariée puis divorcée, mère, amie, amante, elle est le coup de nos libertés et nos désirs. Elle vient d'obtenir le prix Femina étranger 2020 et est notre invitée ce lundi soir.
Par les temps qui courent, du lundi au vendredi à 22h15 sur France Culture et sur franceculture.fr.
Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Aérons les pièces plusieurs fois par jour. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci était un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Le temps du débat, c'est le samedi aussi, et c'est dans une dizaine de minutes, animé par Raphaël Bourgois. Belle fin d'après-midi sur France Culture. Tout de suite, c'est le journal. Il est 18h. Journal présenté par Mathieu Laurent. Bonsoir.
Bonsoir Olivia et bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, chômage partiel et néanmoins massif à Carrefour, bronca syndicale, réaction de force ouvrière et commentaire dans un instant d'Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution. Reprise des hostilités au Sahara occidental, analyse de l'universitaire Khadija Mohsen Finan. Enfin, en Éthiopie, la guerre au Tigré et des frappes sur des aéroports de la province Amhara. Ce sera une correspondance de Noé Hochet-Baudin à Addis Abeba. La grande distribution abuserait-elle du chômage partiel et sans concertation? Les partenaires sociaux de l'ancienne Carrefour, 90 000 des 110 000 salariés concernés, la direction ne communique pas ces chiffres, répondent au que oui, avec des dégradés. Quand la CFDT estime que de telles mesures paraissent démesurées, faute d'avoir les chiffres de la baisse de la fréquentation et des bénéfices, la CGT crie au scandale. Quant à Force Ouvrière, eh bien son secrétaire général Yves Verrier était l'invité ce matin d'Alexandra Bensaïn sur France Inter.
On est un peu surpris du volume de salariés mis en activité partielle dans certaines enseignes, effectivement, parce que...
Vous pensez à qui ?
Apparemment, à Carrefour, on a mis beaucoup de monde en activité partielle et notre syndicat nous dit qu'il ne pense pas que ce soit justifié à ce point-là, parce que, certes, il y a une baisse d'activité, donc, certes, ça peut se traduire par de l'activité partielle parce que les rayons non essentiels ne sont pas accessibles, mais la fréquentation pour les achats plus essentiel, alimentaire en particulier, reste du même niveau. Donc les salariés sont mobilisés pratiquement autant qu'habituellement. Donc là, à l'évidence, il y a un petit conflit entre la grande distribution et les pouvoirs publics dans le contexte sanitaire. Et ça provoque une réaction qui est apparemment plus importante que la réalité n'aurait dû
C'est le mouvement d'humeur de la grande distribution.
Il y a peut-être un peu de ça, oui, effectivement.
Alors, un petit conflit, une grosse colère, une vengeance. Olivier Dauvert est journaliste, spécialiste de la grande distribution, auteur du blog Le Web Grande Conso. Élément de réponse.
C'est pas un moyen de se venger en tant que tel. Je préfère l'expression qui a été utilisée par l'un des syndicalistes de Carrefour qui dit « on met une pression sur le gouvernement ». Ben oui, parce que au final, les grands distributeurs le font, mais les PME et les TPE le font aussi. Quand elles mettent leur personnel en chômage partiel, elles disent de fait au gouvernement « vous avez voulu nous empêcher de travailler, eh bien vous assumez ». Donc c'est pas de la vengeance, c'est plutôt une façon de transférer la responsabilité de la décision à celui qui l'a prise. Après tout, c'est quand même bien le gouvernement qui a décidé de fermer des rayons non alimentaires, de fermer des petits commerçants en promettant une compensation. Ben maintenant, j'allais presque dire, la facture arrive.
Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution avec nos confrères de France Info. Restaurateurs et cafetiers ont eu l'intention de contester devant le Conseil d'État la décision du gouvernement de fermer leur établissement dans le cadre du reconfinement. Information émanant de l'UMI, principal syndicat des métiers de l'hôtellerie. Recours finalisé avant le le 20 novembre. La préfecture de police vient d'annoncer l'interdiction d'un rassemblement prévu demain sur la place Saint-Sulpice à Paris. Les catholiques ont prévu plusieurs manifestations ce week-end dans tout le pays pour exiger de pouvoir célébrer la messe. La crise sanitaire en Europe, nouvelle manifestation anti-masque en Allemagne et fermeture des écoles primaires, des jardins d'enfants et des crèches en Grèce jusqu'à la fin du mois. Cours à distance depuis lundi dernier dans collèges et lycées. Alger craint le pire et déplore, je cite, de graves violations du cessez-le-feu au Sahara occidental, tout en appelant à l'arrêt immédiat des opérations militaires après l'intervention de l'armée marocaine dans la zone tampon de Guerguerat, à l'extrême sud du Sahara occidental. Rabat accuse le Polisario et ses milices de bloquer depuis 3 semaines la circulation au niveau du poste frontière de Guerguerat, cet axe routier majeur pour le trafic commercial vers l'Afrique de l'Ouest. Le Front Polisario affirme dans l'après-midi que oui, les combats se poursuivent. Quelle forme peut prendre ce conflit de 30 ans ? Bertrand Galichet a sollicité Khadija Mohsen Finan, spécialiste du Maghreb à Paris 1.
Il n'y avait plus de guerre depuis que le Maroc a construit des murs de défense dans les années 80. Et donc, on avait privilégié les négociations et la diplomatie. Mais la diplomatie n'avait rien donné et le Maroc a opté pour la manière forte. Et il a la suprématie au niveau militaire parce qu'il est parfaitement armé et les forces armées royales sont très entraînées. Donc, effectivement, il y a une reprise des combats. Probablement pour briser aussi l'immobilisme de ce conflit.
Qui est à l'origine de la reprise des combats, selon vous ?
Mais il y a eu les menaces du secrétaire général du Front Polisario, Brahim Rally. Et d'habitude, ces menaces constituent une rhétorique habituelle. Simplement, d'habitude, le Maroc y répond de manière verbale. Cette fois-ci, la réponse est guerrière.
Quel est l'objectif du Maroc avec ses hostilités ?
L'objectif du Maroc, c'est de poursuivre son entreprise de fait accompli. Sauf que cette fois-ci, il est assuré de la bienveillance et peut-être même de l'appui de la communauté internationale. Le Maroc a réussi à se forger une image de partenaire indispensable dans le monde arabe vis-à-vis des pays occidentaux, l'Union européenne, les États-Unis. Il a beaucoup d'amis, il a très peu d'ennemis à part l'Algérie et l'Iran et dernièrement les pays du Golfe. Donc il est assuré de son succès. Je pense que c'est une stratégie dont on voit les résultats aujourd'hui qui n'était pas celle de Hassan II et qui est celle de Mohamed VI aujourd'hui. Donc c'est d'amener la communauté internationale à reconnaître ce qu'il appelle la marocanité du Sahara occidental.
Khadija Mohsen Finan, spécialiste du Maghreb à Paris 1. En Éthiopie, la guerre au Tigré dure depuis maintenant 11 jours. Le bilan des combats est toujours très difficile à estimer à cause de la coupure de toutes les télécommunications dans la province. Le gouvernement aurait repris une petite partie de l'ouest de cette province, mais les affrontements continuent. La communauté internationale craint des exactions au Tigré. Et depuis ce matin, le conflit semble s'étendre en l'occurrence à la province voisine Amara, où 2 villes ont été attaquées. Noé Oshé Baudin est à Addis Abeba.
Les explosions ont été entendues à Gondar et Baherdar, 2 villes de la province Amara, qui se trouvent respectivement à 100 et 220 km au sud de la ligne de front. Dans les deux cas, ce sont les aéroports qui ont été visés, assure le gouvernement qui précise que des roquettes ont été envoyées par l'armée tigréenne. Une attaque effectivement revendiquée par le TPLF un peu plus tard dans la journée, une attaque qui a fait au moins 2 morts et 15 blessés. Le leader tigréen Debretsion Gebremichael assure que tout aéroport utilisé pour attaquer le Tigré sera une cible potentielle. En effet, depuis le début des combats, les aéroports des 2 villes sont des points logistiques importants pour le gouvernement. Des avions et hélicoptères de l'armée de l'air y sont présents. Une source à Baherdar fait aussi part d'une fusillade au milieu de la nuit autour du camp militaire de la ville. Le TPLF a annoncé qu'il y aura d'autres représailles et d'autres tirs de missiles.
L'Arménie a livré en fin de matinée le bilan des affrontements au Nagorno-Karabakh. 2317 de ses soldats sont morts lors d'une guerre qui s'est terminée sur un accord de paix consacrant une victoire des forces azerbaïdjanaises, selon Erevan. Le processus d'échange des corps avec l'Azerbaïdjan ne fait que commencer. Présenté comme un haut cadre d'Al-Qaïda, inculpé par la justice américaine dans le cadre de l'enquête sur les attentats contre les ambassades américaines de Nairobi et de Dar es Salaam en 1998 et
assassiné par un commando israélien dans les rues de Téhéran en août dernier. Information publiée par le New York Times et rejetée, vivement rejetée par la diplomatie iranienne. Précision avec à Washington Loïc Loury.
Avec 10 millions de dollars de récompense pour toute information susceptible de mener à lui, Abdullah Ahmed Abdullah était l'un des terroristes les plus recherchés par le FBI. Selon le New York Times, il aurait été tué par balle dans les rues de Téhéran par deux assassins à moto. L'information a été confirmée journal par des responsables des renseignements. Une opération menée pour le compte de Washington par des agents israéliens qui ont ouvert le feu sur la voiture de la victime, tuant aussi sa fille, la veuve de l'un des fils d'Oussama Ben Laden. Abdullah Ahmed Abdullah, l'un des grands leaders d'Al-Qaïda, aurait pu succéder à son chef actuel. Il était parmi les terroristes en liberté, selon des documents cités par le Times, le plus expérimenté et le plus à même d'organiser des opérations stratégiques. Toujours d'après cet article, les faits se seraient déroulé le 7 août dernier, un symbole puisqu'il s'agit de la date des attentats perpétrés en Afrique de l'Est contre des ambassades américaines en 98, bilan 224 morts. Mais plus sensible et surtout plus embarrassant pour Téhéran, Abdullah Ahmed Abdullah, impliqué dans ces attaques, se trouvait en Iran depuis 2003, selon le journal. Un cocktail géopolitique explosif et un assassinat que ni les Iraniens, Al-Qaïda, les Américains ou les Israéliens n'ont reconnu.
Le temps de demain dimanche pour la France métropolitaine. Pluvieux avec un vent assez fort sur le nord-ouest, des pluies parfois soutenues des pays de Loire à la Normandie ainsi que sur l'ouest du Pas-de-Calais. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau, à la technique Alex Dang. 18h10, excellente fin d'après-midi et début de soirée à l'écoute de France Culture. Vous êtes en compagnie de Raphaël Bourgois. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Mathieu Laurent.
Bonsoir à toutes et à tous. Entrons dans le temps du débat consacré ce samedi aux Infox. Infox, fake news, faits alternatifs, post-vérité, ces termes qui disent la crise d'un espace public saturé d'informations et la perte de légitimité des médias traditionnels ont de nouveau beaucoup été entendus cette semaine. À l'occasion bien sûr des élections présidentielles américaines, mais aussi de la présentation le 12 novembre dernier par le Forum Information et Démocratie de 250 recommandations pour lutter contre ce qu'il appelle l'infodémie, la pandémie de fausses informations, à l'occasion évidemment du Covid-19, ou devrait-on dire de la Covid-19. Comme pour confirmer les craintes de ce groupe de travail sous l'égide de Reporters sans frontières, cette semaine a aussi été celle du succès inattendu d'un film mis en ligne le 11 novembre, Hold Up, qui emprunte tous les codes de l'enquête journalistique et du documentaire au service d'une sorte de synthèse des mécanismes et des thèses complotistes. La bataille pour dire le réel fait rage, et ceux qui avaient traditionnellement pour fonction de relier cette réalité, journalistes et scientifiques en tête, sont désarçonnés, il faut bien le dire, dans un univers médiatique et numérique qui a remis en cause leur légitimité, ce qui a sans doute permis aussi à des personnes jusque-là inaudibles, absentes, invisibles, il faut bien le dire, pour reprendre les termes utilisés par la chercheuse Nona Meyer, d'accéder aussi à la scène médiatique et donc politique. Alors Infox, fake news, qui détient la vérité? C'est le thème ce soir du temps du débat du samedi, une émission à écouter en direct sur France Culture, franceculture.fr, et quand vous le souhaitez en podcast sur l'application de Radio France.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
Le 8 juillet 1979, tous les pères des prix Nobel ont été rassemblés par des unités des troupes des Nations Unies. Suivez.
It's just fake news.
Et ils ont été contraints, sous la menace, à donner des échantillons de sperme dans des petits flacons en plastique qui sont entreposés dans les sous-sols de l'immeuble du Rockefeller Center sous la patinoire.
On m'appelle Conspi Mamie. Mon partenaire, c'est Sidehorn. On est des journalistes parce qu'on enquête et on ramène des preuves.
Vous savez ce qu'ils mettent dans l'eau? Du fluor. Ouais, du fluor. Sous prétexte que ça...
Vous pensez que les journaux télé mentent?
I know.
C'est grotesque.
I know.
Je le sais. Je ne le pense pas. C'est pas la question, ok?
Ça vous ôte toute liberté d'esprit et toute créativité. Et ça fait de vous un esclave de la société.
Alors pour ceux qui ont un peu les yeux ouverts,
évitez d'aller vous faire vacciner par ce vaccin du coronavirus qui va certainement pas soigner le paludisme, encore moins le coronavirus, et certainement vous injecter d'autres choses.
Attention, là, je vous parle d'un complot.
FFP2, c'est les 4 derniers chiffres des coordonnées bancaires des banques américaines. Parce qu'en fait, quand vous achetez les masques, ça part direct dans les banques et Wall Street.
C'est la preuve absolue que ça pouvait pas être lui, non ?
Dernier secret que j'ai appris hier, renseignements généraux, donc c'est source sûre, ça sort du four, ça. Les Daft Punk, le groupe de musique électronique, et depuis toujours et en réalité, Alain Souchon et Laurent Voulzy.
Je vous jure, George Bush, il savait ce qu'il disait quand il a dit « Nouvel ordre ».
Difficile de dire le vrai du faux, de distinguer les vrais conspirationnistes, évidemment, des sketchs qui ont été mixés dans ce petit montage par Vanessa Nadjar sur fond du film « Complot » de Richard Donner avec Mel Gibson. C'est en 1997, c'est pas nouveau ces questions-là. Et évidemment, Christophe Deloire, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en studio avec nous ce soir, vous êtes le secrétaire général de Reporters sans frontières et le président donc du Forum Information et Démocratie qui présentait cette semaine ces 250 recommandations à l'Alliance pour le multilatéralisme dans le cadre du Forum pour la paix. Voilà, j'étais très clair et très précis. C'est important quand on parle de fake news. On est également par téléphone avec Anne Bellon. Bonsoir. Vous êtes politiste, maîtresse de conférence à l'Université de technologie de Compiègne et vous êtes spécialiste des politiques numériques et de régulation d'Internet. Votre thèse portait d'ailleurs sur gouverner l'Internet.